Vous êtes sur RTL.
J'ai les fesses toutes rouges des dents de la raclée que je me prends.
RTL Midi.
Le 12h.
Pascal Pro, Céline Landreau.
Bonjour à tous, et on l'aime évidemment, Julien Courbet. Bonjour à tous donc, et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'information, d'opinion jusqu'à 14h30 et d'information jusqu'à 13h. C'est avec vous, Céline Landreau. Bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une, évidemment, l'actualité sociale en ce jour de mobilisation pour les salaires. Quelques 200 rassemblements dans toute la France. Et alors que le gouvernement donne enfin son calendrier pour la réforme des retraites, ce sera d'ici la fin de l'hiver. Avant ça, concertation et discussion. Mais Emmanuel Macron prévient, si son gouvernement est renversé, il n'hésitera pas à dissoudre l'Assemblée. L'ouragan Ian et des inondations catastrophiques en Floride, aux États-Unis, où l'on attend désormais que le jour se lève pour mesurer l'étendue des dégâts. Le retour des hooligans dans le foot, les épisodes de violence dans et en dehors des stades se multiplient ces derniers mois, plongés dans ce monde parallèle où il n'est plus tellement question de ballon rond, avec Simon Boll, journaliste de l'équipe, qui signe aujourd'hui une enquête saisissante sur le sujet. Il sera avec nous après le journal. Et puis du sport, toujours avec l'élimination de l'équipe de France féminine de basket en quart de finale du mondial, 85-71, c'était face à la Chine.
RTL, toujours plus proche de vous, dans moins de 10 minutes, RTL Midi, un jour chez vous en France.
Et aujourd'hui, on ira retrouver Franck Hanson dans le Pas-de-Calais, où 20 ans après la fermeture de l'usine Metal Europe, les enfants souffrent toujours de la contamination au plomb. À midi 20, RTL Midi, votre vie plongée dans votre quotidien, on s'arrête aujourd'hui sur le carton des bonbons. Les Français se les arrachent et délaissent, au contraire, le chocolat. Enfin, juste avant 13h, parce que les fleurs,
c'est périssable.
Et puis les bonbons, c'est tellement bon. Juste avant 13h, LVT midi, aujourd'hui on parle mode avec le retour du star qui n'a plus rien de ringard, à gland ou pas, le mocassin s'impose cet automne. La question du jour sur RTL.fr, êtes-vous prêt à travailler plus longtemps?
Bien
vous,
évidemment,
oui, Pascal.
Bien évidemment, j'ai commencé déjà. Autant de sujets évidemment dont vous pourrez débattre à partir de 13h dans les auditeurs. J'ajoute un sujet qui m'a vraiment beaucoup intéressé et même étonné. Un tiers des femmes en âge de procréer ne veulent pas avoir d'enfants. Un tiers. C'est ce que révèle un sondage IFOP.
La météo avec vous, Peggy Broche, bonjour.
Bonjour Céline, bonjour à tous.
D'un mot, l'après-midi mitigé.
Mitigé, un peu moins de pluie, sauf sur les Pyrénées-Atlantiques.
Merci Peggy, la météo complète à la fin du journal.
RTL Midi.
Plus de 200 rassemblements prévus dans tout le pays aujourd'hui à l'appel de la CGT, FSU et Solidaires pour réclamer des hausses de salaire. D'après les syndicats, la mobilisation est assez élevée dans les écoles primaires, un enseignant sur 5 en moyenne, le double à Paris. Les premières manifestations, elles, avaient lieu ce matin. C'est le cas à Grenoble avec quelques 1500 personnes. Grenoble où Serge Peillot a rencontré dans le cortège Maxime, 26 ans et un salaire de 1 400 € par mois.
Avec l'inflation, aujourd'hui, chaque mois, je finis à découvert, alors que pourtant, j'ai pas un niveau de vie exubérant. C'est trop juste. Rien qu'avec un loyer à payer, les charges, l'électricité, parce que ça aussi, il y a le prix de l'énergie qui monte. Je dois faire des choix entre me nourrir correctement ou alors des sorties culturelles. C'est nous, les travailleurs, qui faisons tourner les entreprises, qui font que justement, ils peuvent s'engraisser comme ça avec des dividendes records. Donc maintenant, faut que ça retombe un peu sur ceux qui produisent les richesses. Ça peut pas durer en fait. On est là dans la rue massivement avec des gens de tous les secteurs pour justement demander et imposer qu'on ait plus que ce qu'on a aujourd'hui.
Un propos recueilli pour RTL par Serge Peillot.
Manifestation pour les salaires alors que l'on parle beaucoup retraite en cette rentrée. Emmanuel Macron n'exclut d'ailleurs pas de dissoudre l'Assemblée nationale si le gouvernement est renversé par une motion de censure.
Oui, la menace est agitée par l'Élysée qui dans le même temps choisit donc de temporiser un peu sur cette épineuse réforme des retraites. Pas de passage en force dans l'immédiat. Le gouvernement se laisse un peu de temps. Thomas Desprez, bonjour.
Bonjour.
La réforme n'est donc plus au menu de l'automne. Elle est désormais attendue avant la fin de l'hiver.
Oui, le temps de concerter. Fini les discussions sur la forme, le calendrier. Jusqu'à décembre, Emmanuel Macron veut que ses ministres ne parlent que du fond et rien d'autre. C'est à ce moment-là seulement qu'une nouvelle loi sortira du chapeau pour être votée avant le printemps.
Et d'ici là, il y aura donc dialogue et concertation, mais avec qui?
Alors avec les responsables syndicaux. On ne sait pas encore si tous voudront venir s'asseoir autour de la table des négociations. Il y aura le MEDEF et tous les groupes politiques qui seront invités. Là aussi, ceux qui voudront bien venir, hein, c'est la règle. c'est Olivier Dussopt, le ministre du Travail, et Elisabeth Borne qui recevront tout ce petit monde.
Et pour négocier quoi, Thomas ?
Alors, on connaît la base, c'est le programme du candidat Macron, retraite à 64 ans en 2027, 65 ans en 2031, avec des pensions minimales à 1100 euros pour les carrières complètes, et en réformant pénibilité et régimes spéciaux. Mais alors, qu'est-ce qui est négociable dans tout cela ? Pour l'instant, on ne sait pas.
Et c'est donc dans ce cadre qu'Emmanuel Macron brandit sa menace de dissolution.
Oui, parce que si toutes les oppositions s'allient en votant une motion de censure pour faire tomber le gouvernement, c'est là qu'Emmanuel Macron brandit sa menace. Il ne veut pas que ça devienne la chienlit, rapporte un participant au dîner, qui prévient, il n'aura aucun scrupule à dissoudre l'Assemblée.
Merci beaucoup Thomas Després du service politique d'RTL.
RTL Midi.
Inondation catastrophique en Floride. Après le passage de l'ouragan Ian, plus de 2 millions de foyers sont privés d'électricité. Les conséquences humaines, matérielles sont encore inconnues. C'est encore la nuit en Floride. On sera sur place dans le journal de 12h30 avec notre envoyé spécial Lionel Gendron.
Une quatrième fuite a été identifiée en mer Baltique au-dessus des gazoducs Nord Stream visés par un sabotage présumé.
Il y a donc désormais deux fuites côté suédois, deux autres fuites côté danois, sans que l'on sache à ce stade qui a pu s'attaquer aux tuyaux qui reposent, on le rappelle, à une centaine de mètres de profondeur. Dans le même temps, les dirigeants des quatre régions séparatistes d'Ukraine contrôlées par la Russie sont à Moscou aujourd'hui pour finaliser l'annexion des territoires après les référendums qualifiés de simulacres par les Occidentaux. Et cela, Julien Fautra, alors que sur le terrain, les forces ukrainiennes ne cessent de progresser.
Absolument, Céline. Chaque heure qui passe rapproche les Ukrainiens d'une libération de la ville de Liman. Nous sommes au nord-est de l'Ukraine, tout en haut de cette ligne de front qui coupe le pays en deux. Le front a été percé. Selon une source militaire, c'est l'œuvre de 15 à 20 000 soldats ukrainiens qui avancent ensemble. Pourquoi Liman, c'est important ? Pourquoi c'est stratégique ? Parce que Liman, c'est tout simplement le verrou du dispositif russe dans cette région. Un verrou ferroviaire, un verrou routier. C'est par là que circulent les trains, que circulent les camions, les tanks. C'est par là donc que les Russes passent pour approvisionner une grande partie du front, apporter tout ce qui est nécessaire à faire la guerre. On appelle cela un nœud logistique. Liman qui tombe, c'est pour le Kremlin tout un front à réorganiser l'approvisionnement et les lignes de défense, puisque juste au sud de Liman, à quelques kilomètres, il y a une autre région très convoitée, le Donbass.
Julien Fautra du service étranger de RTL, merci.
Le sport, à présent, il n'y a pas eu de miracle pour l'équipe de France féminine de basket.
Non, les Bleus qui rêvaient d'une qualification en demi-finale du Mondial sont tombés sur plus forte qu'elle tout à l'heure. Défaite face à la Chine 85-71, Isabelle Langer, la logique a été respectée.
Et oui, les Françaises n'ont pas encore une fois réussi à briser ce plafond de verre. Imaginez, cela fait 69 ans que les Bleus ne sont pas parvenus à franchir ce cap des quarts de finale en Coupe du Monde. Elles viennent de céder donc contre la Chine, portées notamment par deux tours de contrôle, deux joueuses qui mesurent plus de 2 mètres, Pascal, et qui n'ont pas manqué d'adresse aujourd'hui, contrairement aux Françaises. Un peu trop de déchets au tir, au rebond et forcément de la frustration, mais aussi beaucoup de volonté. C'est ce qu'il faut retenir, car en l'absence de nombreuses cadres, eh bien cette jeune équipe tricolore n'a pas démérité. Elles ne manquent pas de talent et elles n'ont pas à rougir de leur parcours, ces filles. Bien au contraire, elles repartent la tête haute d'Australie et peuvent voir l'avenir avec optimisme. Mais l'objectif pour les médaillés de bronze des JO de Tokyo, c'est bien évidemment Paris 2024.
Évidemment, merci beaucoup.
Et Isabelle aime toujours voir le verre à moitié plein. Vous avez raison.
Mais ça fait du bien les optimistes. Merci beaucoup Isabelle Langer, optimiste. Vous l'êtes aussi Peggy ?
Parce que...
On parle météo. Hein.
Oui, j'ai bien compris.
Vous avez des confidences à nous faire.
Sur le basket par exemple.
Ce n'est pas l'endroit.
Total, sur votre rapport au monde.
Non, je vais éviter. Un peu moins de pluie globalement hein, cet après-midi. Sauf sur le Pays Basque, puisque les Pyrénées-Atlantiques restent en vigilance orange pluie inondation. Il reste des averses sur un quart sud de l'ouest, sur les Alpes du Nord, également en Corse, des averses localement orageuses. Ça se couvre aussi un peu entre la Normandie, la Bretagne et les Pays de la Loire avec des averses. Près de la Méditerranée, c'est du beau temps et partout ailleurs. Donc on retrouve un temps mitigé entre nuages éclaircis, quelques gouttes vraiment très localement et des températures fraîches, 13 à 16 au nord, 16 à 18 au sud, 21 à 25 près de la Méditerranée.
Merci Peggy.
RTL Midi, un jour chez vous.
Un jour chez vous, comme tous les jours, précisément vers 12h10. Chaque jour, l'info plus près de votre quotidien.
Avec nos correspondants qui quadrillent la France. Et aujourd'hui, la direction le Pas-de-Calais, dans le secteur de Noyelles-Godault, plus précisément, où l'on vous retrouve. Franck Hanson, bonjour. Région dans laquelle, 20 ans après la fermeture de Metal Europe, les alentours de l'usine restent pollués par des métaux lourds, notamment du plomb. Les dernières analyses de la préfecture ont révélé des taux alarmants, notamment chez les enfants.
Oui, cette campagne de dépistage lancée cet été pour répondre à l'inquiétude et suite à un documentaire télé a révélé 7 cas de saturnisme susceptibles de provoquer des troubles nerveux chez ses enfants et une soixantaine au-dessus du seuil de vigilance. Le fils de Jeanne, 13 ans, présente lui une plombémie critique. Il allait régulièrement à la pêche dans ce coin, pas très loin de l'ancienne fonderie, et sa maman est tombée des nues.
Sur le coup, on se pose beaucoup de questions. Hein. Qu'est-ce qu'on a fait de mal? On se demande si notre fils a encore un avenir, si on va devoir l'empêcher, le priver de loisirs ou de plaisir de tous les jours. Le taux de plomb est très inquiétant. Moi, je me demande si dans 20 ans, 30 ans, mon fils ne développera pas un cancer qui sera lié au plomb. Hein. C'est vraiment un cauchemar qui revient. Fille de métallo, j'ai fait attention, j'ai pris mes dispositions. Après, mis en garde, non.
Alors Jeanne avait vu son père, ancien de Métal Europe, décédé d'un cancer. Pour l'instant, les recommandations de l'Agence régionale de santé lui semblent un peu légères.
Franck, les autorités avaient un peu dédramatisé, me semble-t-il, ce problème de pollution.
Il faut savoir que dans cet ancien bassin minier où la fonderie était implantée depuis un siècle, il ne fallait pas en parler de ces problèmes de pollution. C'était l'emploi. Même encore récemment, le ton se voulait plutôt rassurant. Bruno Adolfi et son association de riverains à Evin Malmaison avaient tiré la sonnette d'alarme.
Les autorités ont mis la poussière sous le tapis et aujourd'hui, ils constatent bien que la pollution existe. Nous avons écrit plusieurs fois au niveau du préfet pour leur demander effectivement de supprimer la source d'exposition qui est la pollution qui est dans les sols. Il faut savoir que les parcs publics, les stades, les cours d'école sont pollués dans des doses extrêmement importantes.
La préfecture du Pas-de-Calais a recommandé d'empêcher l'accès au sol dans plusieurs cours d'école du secteur.
Et aujourd'hui, Franck, les habitants, les parents réclament de vraies mesures.
Oui, même si une prise de conscience s'opère, il faut aller plus loin. C'est ce que réclame David Deharbe, l'avocat de plusieurs parents d'enfants contaminés.
C'est presque trop tard. Il y a là une responsabilité qui est lourde parce que les enfants sont touchés. Moi, j'attends une réaction ultra rapide, qu'on fasse un diagnostic seul, de manière à tout de suite cibler la pollution. La vie d'un enfant peut être transformée lorsqu'il est en contact avec le plomb.
Et le dépistage n'a été fait que sur 12% des enfants. Les résultats pourraient être encore plus inquiétants. Clarisse Kazmarek, une maman qui a participé à l'enquête, espère un vrai suivi médical.
J'ai la chance que là, pour l'instant, mes enfants n'ont pas de symptômes apparents. Mais peut-être que d'ici quelques années, ils vont peut-être développer des pathologies, etc. Malheureusement, sur notre commune, on a aussi beaucoup d'enfants porteurs de troubles dyslexiques, dysphasiques. Est-ce qu'on ne serait pas lié à cette pollution au plomb?
Aujourd'hui, les cheminées de Métal Europe ont laissé place à un centre de traitement de déchets.
Merci beaucoup, Franck Hanson, dans le Pas-de-Calais, donc pour RTL.
Vous le savez, chaque jour à Pas de Journal, on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité du jour, ou qui est dans l'actualité ces derniers jours. Eh bien, c'était à Nice le 8 septembre, le phénomène des hooligans. C'est récurrent, les hooligans dans le football. Mais il y a peut-être les hooligans 2.0. On en parle dans une seconde.
RTL, pour tout comprendre de l'actualité. Céline Landreau, Pascal Pro, RTL Midi.
Ce n'est plus possible. Il faut trouver un moyen pour se débarrasser des hooligans. Le président de l'OGC Nice pousse un gros coup de gueule.
Comment des hooligans du PSG se sont retrouvés à Nice pour un match contre Cologne?
C'était le 8 septembre dernier à Nice, donc lors de la rencontre de Ligue Europa Conférence opposant l'OGC Nice aux Allemands de Cologne. Des affrontements en ville, surtout dans le stade. 32 blessés au total, dont deux policiers. Aucune interpellation à l'arrivée. Et déjà, les mois précédents, ces violences s'étaient multipliées. À Lyon le 9 décembre, Paris 8 jours plus tard, Marseille le 5 mai, Saint-Etienne fin juin. Les hooligans 2.0, c'est l'enquête du journal L'Équipe de ce jour. Bonjour Simon Boll.
Bonjour à tous.
C'est vous qui signez cette enquête dans le quotidien sportif. D'abord, comment on explique le retour du mouvement hooligan et des violences qui l'accompagnent dans notre pays?
Alors, c'est une question très sensible et complexe. Donc, pour reposer un petit peu le contexte de cette enquête qui est menée depuis plusieurs semaines en collaboration avec le média indépendant Street Press. Donc, on a essayé, le but c'était de cartographier le mouvement parce qu'on avait... s'était rendu compte qu'il y avait plusieurs faits, incidents récents dans les stades et à proximité qui relevaient de groupuscules hooligans. Donc on s'est dit qu'on allait faire un tour d'horizon du phénomène. Donc l'hooliganisme, c'est loin d'être un phénomène nouveau. Il existe depuis plusieurs décennies, mais ce qu'on a observé avec l'appui de sociologues et de services spécialisés sur le sujet, c'est qu'il y a une nouvelle forme qui est apparue ces dernières
années. Et en quoi elle est différente?
Comment?
En quoi elle est différente, cette nouvelle forme?
Alors, on a affaire plutôt à une nouvelle génération. C'est surtout des groupuscules très jeunes qui ont des nouveaux codes. Là où les hooligans, les anciens hooligans se battaient plutôt à proximité des stades et ciblaient un petit peu tous les groupes, là, ils sont plus Ils vont plus se donner rendez-vous en forêt pour des fights, comme on dit dans le jargon. C'est des combats entre deux équipes, voire plusieurs équipes en alliance, en mode boxe pied-point, en effectif équivalent, sans armes. Et le but, c'est de se taper dessus, mais un peu plus loin des stades. C'est la particularité de cette nouvelle génération qui est également plus marquée politiquement. Il y a plus de passerelles avec l'extrême droite, notamment.
De l'extrême droite, vous trouvez ?
Comment ?
De l'extrême droite, vous trouvez ? Parce que ça, c'était vrai également dans les années 80 avec les hooligans du Paris Saint-Germain. Mais Simon, moi, je voulais vous interroger sur les ultras. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'indulgence, au fond, de l'espace médiatique envers les ultras. Parce qu'entre ultras et hooligans, disons-le, la frontière est mince. Et je trouve que dans le phénomène ultra, il y a en soi parfois de la violence, et même beaucoup de violence. Et que cette violence, naturellement, elle dégénère, que ce soit à Saint-Étienne, à Bordeaux, à Marseille ou à Lyon l'année dernière.
Oui, exactement. On a vu de la violence protestataire, notamment à Saint-Étienne, après la descente et le barrage contre Auxerre, à la commanderie à Marseille, l'attaque de supporters. Mais en l'occurrence, les spécialistes s'accordent pour dire que le rapport des ultras à la violence est très ambigu, mais il faut quand même faire une distinction entre les hooligans, dont
c'est
l'objectif
entendu,
premier
mais
est
la violence. Est-ce qu'en soi, les ultras sont violents ? Voilà une bonne question.
On observe une augmentation de la violence chez les ultras également, mais il ne faut pas oublier que leur objectif premier à eux, c'est d'être au stade, de soutenir leur équipe et d'animer les tribunes. Et c'est vrai que...
Ce qui n'est pas le cas du hooligan.
Que certains groupuscules sont plus ou moins en bonne relation avec les hooligans, certains font des déplacements ensemble, parfois ils font des fights ensemble, à d'autres endroits la distinction est vraiment claire, donc c'est assez ambigu et flou, mais il y a des passerelles évidentes. Ouais.
Et comment les instances peuvent-elles lutter contre ce phénomène ? Il y avait eu le plan Le Prou qui avait été efficace, on les avait entre guillemets virés du stade. Est-ce qu'il y a une autre solution avec les ultras que de les virer, puisque d'ultra on passe parfois à l'hooliganisme ?
On voit qu'à Paris, oui, le plan Le Prou a découlé sur des dissolutions massives, mais on voit qu'aujourd'hui il y a de nouvelles générations qui sont un peu frustrées de ne pas avoir connu cette époque, qui se reforment, notamment la jeunesse boulogne. Tous les acteurs, que ce soit les clubs, la Ligue, la Fédé, les autorités locales, la police, justice, disent que c'est vraiment un travail collectif qu'il y a à faire ensemble. Donc la solution privilégiée, c'est l'interdiction de stade, qu'elle soit commerciale ou administrative. Mais la difficulté est toujours d'identifier les personnes au stade et de matérialiser les faits.
Et après, c'est difficile, effectivement.
Il y a aussi un travail sur la filtration à l'entrée des stades, sur le système de billetterie, sur le... meilleure organisation de la sécurité privée et des stadiers, c'est tout un travail d'ensemble et on ne sait pas encore si des clubs et des instances sont vraiment au point sur le sujet, c'est sûr.
En 30 ans, un seul avait réussi à être efficace, c'était radical, je le répète, c'était le plan Le Prou. Après, chacun en pense sur ce sujet ce qu'il souhaite. Merci en tout cas Simon Bollet, vous êtes journaliste à l'équipe et c'est vous qui avez réalisé cette enquête très intéressante. Dans un instant, RTL Midi Votre Vie. Est-ce que vous aimez les bonbons ? Je vous en ai... oui, effectivement.
Vous non, mais Pierre Herbulot nous en a apporté.
On entend le bruit du bonbon, mais attention parce que ça fait... Il y a des caries avec les bonbons. Les Français aiment beaucoup les bonbons. La consommation explose, à tout de suite.
Céline Landreau, Pascal Pro.
RTL Midi jusqu'à 13h.
RTL Midi,
votre vie.
Votre vie, car l'info, c'est aussi ce qui fait votre quotidien. Et aujourd'hui,
je vous ai apporté des bonbons. Parce que les fleurs, c'est périssable. Puis les bonbons, c'est tellement bon.
Eh oui, tellement bon les bonbons qu'ils font un carton. Les ventes de confiseries s'envolent alors que le chocolat lui dégringole. Plus de sucre, moins de cacao. Les goûts des Français évoluent et on voit ça avec vous, Pierre Herbulot. Bonjour.
Bonjour.
La hausse est spectaculaire. C'est lié au pouvoir d'achat ?
Oui, parce que les bonbons sont moins chers que le chocolat. Pour 2 euros, vous avez 2 tablettes de 200 grammes de chocolat. Pour 1,50 euro, vous avez 400 grammes de bonbons. C'est 2 fois moins cher. Donc, quand il faut se faire plaisir et qu'en plus, il faut faire attention à son portefeuille, eh bien, les consommateurs ont tendance à privilégier les bonbons. Mais d'une manière plus générale, c'est carrément toute la crise qu'on est en train de vivre qui profite au marché. Et je discutais au téléphone avec un responsable marketing d'un grand groupe de bonbons. Il y a une une phrase qui se dit dans le milieu, dès qu'il y a une période de crise, la confiserie va bien. Ça se vérifie dans une étude de Confiseurs de France. Pour 6 Français sur 10, les bons becs permettent de décompresser et de se faire plaisir.
Mais c'est pas le même emploi, parce que les bonbons, comme disait ma grand-mère, ce n'est pas nourrissant, alors que le chocolat, ça, c'est robuste.
Oui,
c'est,
alors...
Je ne veux pas dire que c'est un plat, mais c'est plus...
C'est pas la même
chose, un petit bonbon, c'est pas la même chose qu'un carré de chocolat.
Ah bah, c'est quand même un instant plaisir, en fait.
Oui, vous avez raison, mais il me semble que c'est plus nourrissant, pour reprendre cette expression ancienne. Bizarrement, ça s'explique aussi avec le Covid ?
Oui, mais alors pas exactement dans le sens où on l'entend. Je vous ai dit que les crises profitaient à la confiserie. Alors, justement, pas le Covid, parce que le bonbon se partage. Il y a 8 temps forts chaque année pour le bonbon, les goûters d'anniversaire, Halloween, les voyages, les sorties au cinéma, entre autres. Bref, tout ce qu'on ne pouvait plus faire pendant la crise sanitaire. Et on avait beau s'enfiler des caramels au beurre salé sur notre canapé pour décompresser, ça ne suffisait pas. Moins 8,5% de vente en 2020. Il y a donc aujourd'hui aussi une forme de rattrapage. Et pas qu'un peu, 109 000 tonnes de bonbons vendus en 2020. 117 000 tonnes cette année selon les dernières projections, ce qui ferait 2022 un excellent cru.
Et qu'est-ce qui marche le plus côté bonbons, Pierre ?
Alors, pas de faux suspense, ce ne sont pas les nougats, ni la réglisse,
le
ni
nougat,
les dragées.
Le nougat, c'est un bonbon ?
Oui, ça fait partie des confiseries au sens large, ni les caramels. En fait, c'est bien la catégorie, le bonbon, où on l'entend, c'est-à-dire douceur gélifiée, c'est comme ça qu'on dit. Les sucettes aussi, c'est deux catégories.
Je voudrais une douceur gélifiée, je vais demander ça tout à l'heure.
C'est ça, on parle de
confiseur. C'est joli d'ailleurs le mot confiseur.
Absolument, donc ces douceurs gélifiées et les sucettes, c'est 62% de part de marché.
Mais c'est déjà, mais c'est pas des vieux qui mangent ça quand même, c'est des jeunes.
Non, absolument, c'est principalement des jeunes, il y a des ados et il y a aussi quelques personnes un peu plus âgées, mais globalement c'est un marché qui s'adresse aux enfants.
C'est ou des très jeunes ou des très vieux.
Voilà, c'est ça.
Et il faut se méfier des messieurs qui disent « est-ce que tu veux un petit bonbon ?»
Toujours, vous parliez des plus âgés, est-ce qu'il y a un côté nostalgique avec des incontournables qui restent très hauts ou on a des nouveautés qui s'imposent, Pierre ?
Oui, non, vraiment, c'est un marché de nostalgie puisqu'on achète à nos enfants finalement les bonbons qu'on mangeait nous-mêmes quand on était plus petits. Le classement des meilleures ventes est largement dominé par Haribo, leader du marché. Vous avez les Tagada et les Dragibus, 50 ans pour ces deux bonbons. Derrière, les Schtroumpfs et les Crocodiles, 40 ans bien tassés. C'est toujours ces quatre bonbons-là qui s'échangent les quatre premières classes du classement. Ça varie d'une année sur l'autre. Derrière, jamais très loin, vous avez les Chamallows, 50 ans aussi, et puis ensuite derrière les pastilles de Vichy, 200 ans d'existence, qui font partie du top 10 tous les ans des meilleures ventes de bonbons. Et puis ensuite, vous avez des choses comme les têtes brûlées qui marchent de mieux
ça
en mieux.
Les petits cachous, par exemple, c'est
les
un bonbon.
Les petits cachous, ça marche un petit peu moins bien, mais ça fait partie des dragées. Ouais,
les cachous, là, j'en dis. Il faut se méfier également des messieurs qui proposent un cachou.
Faut se méfier de beaucoup de messieurs.
En général, des messieurs.
Merci, vous pouvez partir. Merci.
L'info revient dans un instant avec le journal de 12h30.
Votre avis compte. Venez l'exprimer sur RTL au 3210. 50 centimes la minute. RTL, s'informer ensemble.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, merci de rester avec nous. Si vous étiez déjà à l'écoute de ce RTL midi, il est 12h30.
RTL midi, le 12h30, Céline Landreau et Pascal Pro.
Et donc à 12h30, c'est votre grande édition de la mi-journée avec vous, Céline Landreau.
Coup de bluff ou pas, Emmanuel Macron agite la menace d'une dissolution de l'Assemblée nationale. Menace alors que le gouvernement temporise dans le même temps sur les retraites. La réforme ne passera pas en force à l'automne. Elle est attendue d'ici la fin de l'hiver, après discussion. Les retraites, justement, comment ça marche aujourd'hui ? Qui part quand ? Avec quoi ? Point complet après ce journal. Actualité sociale chargée, puisque nous sommes en pleine journée de mobilisation pour une hausse des salaires, plus de 200 rassemblements attendus dans toute la France. Le rideau tombera définitivement samedi soir sur les quelques 500 magasins Camaïeu en France. La liquidation judiciaire a été prolongée. 2600 salariés vont être licenciés. Le jour ne s'est pas encore levé en Floride après le passage de l'ouragan Yann. Inondation catastrophique. 2 millions d'habitants sont privés de courant et s'attendent à retrouver un paysage dévasté. Votre rendez-vous culture, LVT midi, juste avant 13h. Aujourd'hui, Monique Younes vous expliquera le retour en force du mocassin. La question du jour sur RTL.fr. En pleine actualité retraite, êtes-vous prêt, vous, à travailler plus longtemps ?
On en parlera évidemment à partir de 13h dans Les Auditeurs ont la parole. 32-10 pour dialoguer. J'ajoute un sujet. Les prisonniers doivent-ils avoir accès à Internet ?
La météo complète à la fin du journal, mais déjà... un indice avec vous, Peggy Broche, coussi-coussa.
Oui, ah, bah joli, c'est très bien dit. Coussi-coussa, mais encore beaucoup de pluie sur le Pays Basque.
Merci, Peggy.
Jusqu'à 13h. RTL Midi.
C'est une nouvelle illustration du « en même temps ». L'exécutif temporise sur la réforme des retraites et « en même temps », Emmanuel Macron agite la menace d'une dissolution de l'Assemblée nationale.
Oui, la réforme, un temps attendu à l'automne, ne devrait finalement arriver que d'ici la fin de l'hiver, le temps de discuter, concerter, explique le gouvernement, qui se défend donc de tout passage en force sur ce sujet si sensible. Pour autant, pas question de céder, Emmanuel Macron met donc les parlementaires sous pression et prévient « si le gouvernement est renversé, il n'hésitera pas à dissoudre l'Assemblée nationale ». Olivier Bost, menace réelle ou pas ?
Pas vraiment. D'abord parce que pour que le gouvernement soit renversé, il faudrait une alliance très large des oppositions. Il faudrait la France insoumise, qui rêve d'une dissolution, d'un cinquième ou sixième tour après la présidentielle. Mais même si la France insoumise vote avec les députés du Rassemblement national, ça ne suffirait pas. Il faudrait aussi le concours des Républicains. Or, eux, objectivement, n'ont aucun intérêt à retourner aux urnes. Et d'une manière générale, d'ailleurs, s'il y avait une dissolution, personne, ni vous, ni moi, ni le président de la République, ne sait ce que donnerait le résultat d'élections législatives. Je vous rappelle qu'en juin dernier, le Rassemblement national a gagné la majorité de ses sièges de députés face à des candidats macronistes. Est-ce que les Français voteraient au printemps prochain pour que se fasse cette réforme des retraites ? Eh bien, la dissolution dans notre histoire politique, pour reprendre un célèbre sketch, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes.
Avant ça, donc on l'a compris avec vous Olivier, le gouvernement assure vouloir discuter, concerter. Mais du côté des partenaires sociaux, on est pour le moins méfiant, à l'instar de Michel Boga, négociateur Force ouvrière.
Le président de la République sait que les partis d'opposition, mais aussi l'ensemble des organisations syndicales sont défavorables à son projet. Même les employeurs disent que ce n'est pas le moment. Donc en fait, en proposant la concertation, alors qu'il sait que si c'est pour reculer l'âge de départ à la retraite, on ne va pas aboutir. C'est une manipulation pour pouvoir passer en force après. Donc on est dans de la communication, dans de la manipulation pour laisser à penser aux Français que oui, il veut concerter, oui, il y a une nouvelle méthode alors que c'est tout le contraire.
Michel Boga, négociateur Force ouvrière, joint pour RTL par Anaïs Bouissou. Anaïs, qui nous rejoindra d'ailleurs à la fin du journal pour faire le point sur le système de retraite actuel, avant cette fameuse réforme aujourd'hui, qui par quand, à quel âge, avec quelle pension, Anaïs vous dira tout.
Le coup près est tombé hier et les salariés n'ont que jusqu'à samedi soir pour se faire à l'idée. Ensuite, Camailleux, ce sera fini.
Oui, le tribunal de commerce de Lille a prononcé hier la liquidation judiciaire du groupe de prêt-à-porter. Ce sont donc 2600 personnes qui perdent leur emploi à la fin de la semaine. Plus de 500 magasins qui ferment. Et des clients solidaires ce matin, Christian Panvert, comme vous l'avez constaté à Alençon dans l'Orne. Ils viennent une dernière fois en boutique pour témoigner de leur soutien.
Oui, depuis son ouverture ce matin à 10h, la boutique n'a pas désempli. Beaucoup de clientes sont venues pour soutenir le personnel, comme Christiane, 70 ans.
On se met à la place de ces gens qui vont se retrouver au chômage.
Annick, 60 ans, tenait à être là.
Par solidarité déjà, et moi je m'habillais beaucoup chez Camailleux.
On les ferme samedi.
On vient de croiser une dame qui pleure.
Oui, ça ne m'étonne pas. Moi aussi, j'ai la gorge serrée. Moi, je suis retraitée et franchement, ça me convenait bien pour mon budget.
L'enseigne était installée depuis 22 ans. Elle employait 4 salariés. C'était une locomotive pour cette rue qui se vide de ses commerces, constate Patrick.
50% de magasins fermés. H&M, l'ancien Jacqueline Rieu. Il y a Saint-James qui vient de fermer. Eram depuis plus de 2 ans. Et Camailleux maintenant pour finir.
Frédéric dirige le bar des piétons juste à côté. Pour elle aussi, c'est une très mauvaise nouvelle.
Quelqu'un qui va faire une course dans n'importe quel magasin va boire un verre. Celui qui va venir boire un verre va aller faire une course parce que la vitrine l'intéresse. Ça va être encore compliqué. Pas que pour moi, pour tout le monde, je pense.
Elle espère que le repreneur ne sera pas un commerce de restauration rapide.
Christian Panvert à Alençon dans l'Orne pour RTL.
Les activités de soins vont reprendre progressivement à l'hôpital de Brest dans le Finistère.
Ce centre hospitalier victime hier d'une grosse panne informatique. Alors, un problème technique, hein. On ne parle pas là d'une cyberattaque, mais cette panne a paralysé quasiment tous les services, Mathieu Lopineau.
Oui, Thibault avait des examens prévus hier pour sa fille. Tout a été repoussé de plusieurs heures.
Ma fille est née, elle a des problèmes de santé, donc elle est restée en observation. Les examens ont été plus longs, ça a été repoussé, oui, une demi-journée.
La galère également pour les médecins, les infirmières, comme Chloé, qui travaille au service ORL. Tout le système informatique en blackout, obligé de ressortir le stylo, les feuilles à l'ancienne, et déprogrammer les opérations.
Ça fait des tonnes et des tonnes de feuilles pour un patient, et puis il faut être sûr de ne pas les perdre. Tout est sur informatique, les ordonnances de sortie, les courriers de liaison, tout ça, on était coincés. coincée. Bah, les patients ont attendu des heures et des heures avant de pouvoir sortir. C'est toujours délicat de devoir aller annoncer à un patient qui attend son intervention depuis des fois des mois. Bah, on est désolé, mais vous n'allez pas pouvoir vous faire opérer aujourd'hui et on ne sait pas quand ça sera le cas.
Et même si la direction de l'hôpital a annoncé que la situation allait se rétablir dans la journée, les médecins et les infirmières vont mettre plusieurs jours à tout remettre en ordre.
Les médecins vont avoir double travail parce qu'il va falloir qu'eux retranscrivent tout sur ordinateur, qu'ils refassent toutes les prescriptions. Il y a tout à refaire. Ça va être long pour eux, je pense. Ouais.
L'hôpital de Brest a annoncé la reprise des soins dans la journée, notamment aux urgences. Les consultations sont reprogrammées dès 14h tout à l'heure et les interventions chirurgicales reprendront dès demain matin.
Mathieu Lopineau à Brest pour RTL. Le nombre de naissances en France est reparti à la hausse en 2021. Exactement, après 6 années de baisse, c'est ce qu'indique aujourd'hui l'INSEE qui relève notamment que les conceptions sont accélérées au sortir de chaque confinement lié au Covid.
RTL Midi.
Difficile de mesurer encore l'étendue des dégâts causés par l'ouragan Yann qui a ravagé la Floride ces dernières heures.
Inondation catastrophique, coupure de courant généralisée. Le jour ne s'est pas encore levé dans cette région des États-Unis, Lionel Gendron. Mais les habitants savent déjà qu'ils retrouveront un paysage dévasté.
Oui, il fait encore nuit ici, mais on va voir les dégâts humains et matériels dans les prochaines minutes, notamment dans le sud du pays où l'ouragan est passé en premier. Ici, c'est encore trop tôt. On est dans l'œil de la tempête. Je suis actuellement à Orlando. Yann est devenu une tempête tropicale. L'hôtel où je me trouve a plusieurs fuites, mais a bien tenu. On ne peut pas encore sortir. Le problème, ce sont les vents très violents. La nuit a été compliquée pour beaucoup, mais pas pour Edwards. Les yeux endormis. Il est descendu ce matin pour prendre son petit déjeuner avec sa femme. Ils sont arrivés ici il y a juste quelques jours.
We just moved to
On vient juste de déménager à Orlando, on était dans le Michigan. C'est ma première tempête, moi ça va, mais ma femme est terrifiée, elle veut retourner dans le Michigan. Moi je veux rester ici, mais elle n'étale pas ce genre de choses.
Les ouragans en Floride, en effet, il faut faire avec souvent, c'est ce que disent beaucoup d'habitants. Ce qui inquiète, ce sont donc les inondations. En ce moment, des alertes inondations se multiplient un peu partout. C'est la grosse crainte des autorités.
Lionel Gendron, envoyé spécial de RTL en Floride, aux États-Unis. La Russie entérinera demain l'annexion des territoires qu'elle contrôle aujourd'hui en Ukraine. Annexion à la suite des référendums qualifiés de simulacres par les Occidentaux. Dans le même temps, l'OTAN dénonce des actes de sabotage délibérés et responsables après les explosions qui ont provoqué des fuites sur les gaz du Nord Stream en mer Baltique. Pointé du doigt, le Kremlin dit suspecter l'implication d'un État étranger.
On revient en France, c'est mieux en français, figurez-vous. Voilà l'appréciation qui pourrait figurer sur les bulletins des CM2.
Résultat de l'enquête CEDRE menée régulièrement depuis 2003. Marie Guerrier, vous êtes notre spécialiste éducation à RTL. Pour la première fois depuis 12 ans, la maîtrise du français progresse.
Oui, il y a davantage d'élèves qui maîtrisent de manière satisfaisante ou très satisfaisante la compréhension de l'écrit, la grammaire, l'orthographe, le vocabulaire. On est passé de 60% à 62,5% après de longues années de stagnation. Alors pourtant, ces élèves de CM2 testés et évalués en 2021 ont connu le confinement, les écoles fermées au printemps 2020, dont on redoutait l'effet sur les apprentissages. Alors ces 5 dernières années, le ministère de l'Éducation nationale a mis l'accent sur la lecture à l'école primaire, avec des consignes très explicites et un travail particulier sur l'affluence, la fluidité de lecture. Tous les 6 ans, donc, un échantillonnage d'élèves est soumis au même type d'exercice et c'est ça qui permet les comparaisons. Il y a une légère hausse globale du niveau. Quand on regarde dans le détail, on voit que c'est le groupe des élèves moyens qui diminue. Le socle des élèves en difficulté et ou en grande difficulté reste, lui, stable, malheureusement, autour de 11%. Il n'y a pas d'amélioration dans les milieux les plus défavorisés, les élèves en REP, en réseau d'éducation prioritaire. Alors le ministère espère que leurs résultats progresseront lors de la prochaine évaluation CEDRE, parce que cette fois elle concernera pour la première fois des CM2 qui auront bénéficié en REP du dédoublement des classes de CP et CE1.
Marie Guerrier, spécialiste éducation donc de RTL, puisqu'on parle enseignement, sachez que 11% des enseignants sont en grève à la mi-journée d'après le ministère de l'Éducation nationale. On rappelle que c'est une journée de mobilisation pour les salaires. La météo, Peggy Broche, on vous retrouve comme promis pour un après-midi, on l'a dit, mitigé.
Oui Céline, cet après-midi, moins de pluie globalement à l'échelle du pays, sauf sur les Pyrénées-Atlantiques qui est toujours en vigilance orange pluie inondation. Encore des averses dans le sud-ouest dans l'après-midi, sur les Alpes du Nord également, en Corse où on aura des averses orageuses, mais aussi, parce que ça va se couvrir entre la Bretagne et Pays de la Loire et la Normandie avec un coup de tonnerre possible. Près de la Méditerranée, ça reste beau avec du vent et puis partout
partout ailleurs. Un ciel variable entre nuages éclaircis et quelques gouttes isolées, le tout sous des températures fraîches de 13 à 16 degrés au nord, 16 à 18 au sud et 21 à 25 degrés près de la Méditerranée.
Merci Peggy.
Tout savoir sur les retraites, qui part quand et avec quoi, Anaïs Buissou dans une seconde.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Céline Landreau. RTL Midi. Pascal Pro et Céline Landreau.
Elle devait rythmer l'automne, ce sera finalement l'hiver. La réforme des retraites au cœur de l'actualité alors que le gouvernement ouvre un nouveau cycle de concertation. Cette réforme est donc attendue avant la fin de l'hiver, mais avant de parler de ce qui nous attend, on a choisi dans RTL Midi de s'arrêter très concrètement sur notre système de retraite actuel. Qui, par quand, à quel âge, avec quelle pension? Et c'est vous, Anaïs Buissou, spécialiste du dossier, qui allez nous éclairer. D'abord, aujourd'hui, la retraite, c'est à quel âge?
Aujourd'hui, l'âge légal pour partir à la retraite, c'est 62 ans. À 62 ans, vous êtes libre de partir, mais ça ne vous garantit pas une pension de retraite complète tous les mois. Ça, on va en reparler. Maintenant, si vous avez commencé très tôt à travailler, avant 20 ans, si vous avez eu un métier pénible ou si vous subissez un handicap, la loi peut vous permettre de partir plus tôt, à 60 ans, voire moins.
Et pour bénéficier de ce qu'on appelle le taux plein, la retraite maximale, hein, pour être très clair, il faut avoir travaillé combien de temps?
Vous devez avoir cotisé un certain nombre de trimestres. Tout dépend de votre âge, puisque petit à petit, le nombre de trimestres à valider augmente. Plus vous êtes jeune, plus votre temps de carrière sera long avant de pouvoir partir à la retraite à taux plein. Je vais vous prendre un exemple. Vous avez 60 ans aujourd'hui. Vous devrez avoir travaillé durant 42 ans, précisément 168 trimestres pour avoir l'intégralité de votre retraite. Donc pour ceux qui ont commencé à travailler à 20 ans, on fait 20 plus 42. Tout va bien, vous pouvez partir à 62 ans tout pile avec toute votre retraite. En revanche, si vous avez commencé de travailler à 22 ans, on refait le calcul, 22 plus 42 ans de travail, 64 ans. Là, vous devrez attendre vos 64 ans pour avoir toute votre retraite complète. Si vous décidez de partir quand même un petit peu plus tôt, ben, ce sera possible, mais avec un malus, avec une décote sur votre pension. Et voyez, plus vous êtes jeune, plus le nombre de trimestres à valider va augmenter. Je vous ai dit, si vous avez 60 ans aujourd'hui, vous devrez cotiser durant 42 années. Mais si vous avez 40 ans aujourd'hui, si vous êtes né donc après 1973, là vous allez devoir cotiser 43 années, 172 trimestres avant d'avoir votre retraite à taux plein.
Mais ce qui est très injuste, Anaïs, c'est que nous, on a la chance de faire un métier qui n'est pas pénible physiquement. Et lorsqu'on anime les auditeurs ont la parole, souvent on a des témoignages de femmes fatiguées entre 50 et 60 ans. Je pense à des femmes de ménage qui vous disent « je ne peux pas aller jusqu'à 62, 63, 64 ans ». Elles ont déjà 55, 56 ans, elles sont très fatiguées. Est-ce que la pénibilité est prise en compte?
La pénibilité est prise en compte dans une certaine mesure. Il y a aussi le dispositif des carrières longues, c'est-à-dire que si vous avez commencé de travailler avant vos 20 ans, vous pouvez partir plus tôt. La loi l'autorise déjà, mais effectivement, on sait qu'il y a un certain nombre d'injustices dans le système de retraite actuel, et c'est d'ailleurs pour ça que le gouvernement évoque la possibilité de réformer les retraites, et notamment la pénibilité, et les syndicats demandent aussi cette partie
ça,
de réforme.
Mais ça, c'est plutôt de bon sens, disons-le, pour les écouter régulièrement sur cette antenne, c'est de bon sens. Il y a des gens qui vous disent « je ne peux pas aller jusqu'à 64 ans,
oui.
C'est trop dur, c'est trop fatigant ».
Oui, mais je crois que tout le monde en est conscient.
Et Anaïs n'est en rien responsable de la situation actuelle, Pascal. Cette retraite, justement, la pension en tout cas qu'on touche, elle est calculée comment, Anaïs? C'est pour tout le monde pareil?
Non. Si vous êtes salarié dans le privé, votre retraite est calculée sur les 25 années où vous avez gagné le plus d'argent.
Avant, c'était les 10.
D'ailleurs.
Et ça, c'est très injuste.
Oui, alors
parce
là,
qu'on est passé de 10 à 25. C'était avant les 10 meilleures années, maintenant, c'est les 25 meilleures années.
Ben, ça permet de calculer sur un plus grand nombre d'années de votre carrière.
Oui, mais je suis d'accord avec vous, mais c'était plus avantageux quand c'était 10.
Alors, il y a quelque chose qui est quand même intéressant, c'est que vos 25 meilleures années, ce ne sont pas forcément vos 25 dernières années
non,
de carrière.
C'est entendu.
Si vous avez gagné beaucoup d'argent en début de carrière, les 25 années du début de carrière vont compter. Ça dépend.
25...
C'est variable en fonction des carrières.
Ça, c'est pour le privé, ouais. Vous avez dit.
Ça, c'est exactement pour le privé. Maintenant, autre cas de figure, vous êtes fonctionnaire. Là, votre retraite est calculée sur votre rémunération des 6 derniers mois
ça,
de carrière.
Et ça, c'est une injustice.
Alors pourquoi c'est injuste, Pascal ?
Mais parce que d'un côté, sur les 6 derniers mois, de l'autre côté, sur les 25 meilleures années.
Oui, parce qu'on parle de la fonction publique, on parle du privé, les cotisations ne sont pas les mêmes, enfin, les systèmes de carrière et donc de calcul de retraite ne sont pas les mêmes.
Anaïs, on peut considérer qu'en fin de carrière, tu gagnes plus qu'en début de carrière et que les fonctionnaires sont favorisés par rapport au privé.
Mais Pascal, vous considérez ce que vous voulez, moi je vous parle du cas actuel.
Ne la coincez pas, elle ne peut pas donner son avis, contrairement à vous, Pascal.
Non, j'y vois comme une forme d'injustice, mais...
Alors attendez,
souvent,
je vais vous donner un exemple. Je vous donne un exemple quand même pour un fonctionnaire, histoire que les auditeurs y comprennent un tout petit peu quelque chose. Vous avez 62 ans, vous avez cotisé le bon nombre de trimestres pour partir au taux plein. Je vous passe les détails du calcul, mais si vous gagnez 3000 euros bruts par mois en 2021, donc c'est-à-dire les quelques mois avant votre retraite, eh bien vous aurez 2250 euros bruts de pension de retraite. Ça correspond à 75% de votre rémunération avant retraite.
Super, merci beaucoup Anaïs Bouissou. Vous ne l'avez pas convaincue, je n'ai pas cherché à le convaincre, mais au moins c'était clair, on a l'explication.
Du cas actuel.
Merci beaucoup Anaïs.
Merci, c'est toujours un plaisir d'écouter avec autant de précision et de rigueur les informations que vous nous donnez. Il est 12h50, on va parler des mocassins. Paraît-il que les mocassins reviennent à la mode. Moi, je n'avais jamais vu qu'ils étaient vraiment partis.
Mais ils reviennent en force,
en force,
plus relookés, vous allez voir.
Formidable, à tout de suite.
Céline Landreau, Pascal Pro,
RTL Midi jusqu'à 13h.
RTL.
Laissez-vous tenter midi.
La culture se met à table tous les jours dans RTL Midi. Et aujourd'hui, donc, on va parler de la culture du mocassin avec Monique Younès. Bonjour.
Votre chanson favorite.
Qu'est-ce que c'est que cette chanson?
Mais c'est la vôtre.
C'est une chanson qui a 40 ans.
Mais
les
oui.
Mocassins, les tiens, je ne connaissais même pas.
Parce que ça a 40 ans, c'est trop vieux pour vous, Pascal. Monique, notre papesse de la mode ici à RTL est venue nous le confirmer. Il n'est plus ringard, loin de là, le mocassin. Il est de retour, grande tendance de l'automne. On le voit partout au pied des célébrités, dans les rues. Et ce qui a changé, donc, Monique, c'est que désormais, ce sont les jeunes qui se l'arrachent.
C'est vrai, pour les contenter, les fabricants leur ont proposé, à côté des modèles classiques, des mocassins new look. Plus pop, plus bohème, plus branché. Il y en a pour tous les goûts, des brodés, des fourrés, des strassés, des cloutés.
C'est quoi un mocassin pop? C'est la couleur?
Ben, tout, et la couleur et la forme. Les cloutés, on n'en voit pas. Quand même les strassés, il y a des fourrures qui sortent partout, il y a des boucles géantes. Il y a par exemple certains mocassins qui sont à double ou à triple semelle. Il y a même des mocassins sans talons. Et certains grands couturiers ont imaginé des modèles aux couleurs fluo, par exemple. J'ai été interrogé Vincent Grégoire, qui est bien placé pour observer cette tendance. Il est directeur de création à l'agence de conseil Nelly Rodi.
Chez les plus jeunes, alors ceux qui étaient plutôt génération sneakers, qu'on en a peut-être un peu marre du côté un peu laissé aller ou trop sport, qu'on a envie de quelque chose de plus stylé, comme ils disent, presque un peu plus guindé, avec des références plus patrimoniales. Du coup, les plus vieux se disent « Ah, chouette, je vais pouvoir ressortir les miens, je vais les porter un peu autrement, parce que si on les porte à la pépère, ça le fait pas. » Donc, ça réconcilie un peu les générations aussi. C'est un produit très transversal, qui est chargé d'un imaginaire très fort. En fait, c'est un produit qui est intéressant parce qu'il est aussi non-genré. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est son ambiguïté. Le retour dans les tendances du mocassin, c'est très schizophrène, quoi.
C'est un produit très transversal qui est donc traversé par un imaginaire très fort.
Ben oui, très très fort, parce qu'il est porté par les hommes et les femmes, donc non genré, parce qu'il faut être dans notre temps.
J'aime les directeurs de marketing parfois. Voilà. Pour être à la mode, on porte donc des mocassins, mais avec chaussettes ou sans chaussettes?
Éternelle question. Alors il y a les inconditionnels des pieds nus, même en hiver.
Mais... C'est nouveau ça d'ailleurs, ça a 10 ans à peu près.
Oui,
ça.
Mais bon.
C'est les Italiens qui portent sans chaussettes.
Mais d'un autre côté, c'est une tendance qui s'ancre. Oui. Hein. Et il y a aussi, avec chaussettes et évidemment, mais si vous voulez mettre des chaussettes, ne commettez pas l'erreur de Jacques Chirac, grand fan de mocassins, qu'il portait avec des chaussettes en fil d'Écosse montante, même quand il était en short sur la plage de Brégançon. Aïe. Ce sont des photos qui ont fait le tour de la planète. Drame de style. Mais pour être tendance aujourd'hui, il faut porter les mocassins comme... L'éternel Michael Jackson, qui a propulsé le mot mocassin au fait de sa gloire dans les années 80. Il les portait soit avec de larges et épaisses chaussettes de tennis, soit avec des chaussettes strassées.
Des chaussettes blanches.
Ah, mais si, ça revient.
Les chaussettes blanches de tennis avec des mocassins.
Bien sûr.
J'ai l'impression que vous avez un petit temps de retard, Pascal.
Non, il faut se mettre à la page, Pascal.
Oui, là,
vous pouvez aussi porter des chaussettes pailletées, mais toujours sous un pantalon feu de plancher, vous savez,
oui,
c'est-à-dire trop court, de manière à les rendre visibles. Et Michael Jackson était sans sas quand il passait, par exemple, en mode moonwalk. On ne dit pas assez ce que cette danse doit aux mocassins. Alors la paire de mocassins la plus chère au monde reste à ce jour celle qu'avait portée Michael Jackson en 1983 lors d'une émission célébrant les 25 ans de son label Motown. C'était la première fois qu'il chantait Billie Jean en public et ses mocassins noirs de la marque américaine Florsheim Imperial ont atteint la coquette somme, comme on dit, de 80 000 euros aux enchères. C'était en 2018.
Coquette, en
oui,
effet.
Toute petite coquette.
Monique, ce sont surtout les Américains qui ont toujours adoré les mocassins.
C'est vrai, d'Elvis Presley à Timothée Chalamet, d'Audrey à Cindy Crawford, de JFK à Harrison Ford, tous en raffolent. Paraît-il, ce sont les Indiens d'Amérique du Nord qui ont porté les premiers des mocassins, des chaussures souples.
Quoi, les chaussures des Américains, c'est un drame.
C'est pourquoi ?
Oh, bah, si vous allez aux États-Unis, c'est pas du tout le même rapport que l'Italie et la France. Ils ont des chaussures, j'allais dire,
oui,
c'est
mais
un peu trivial ce que je veux dire.
Mais elles sont plus que nous.
Oui, mais elles sont très, très abîmées. Hein.
Bah, oui. Qu'est-ce que vous voulez ? Et tout le monde n'a pas des Weston comme on a en France. Alors, en France, en effet, ou bien en Europe en général, les Norvégiens ont été les premiers à porter des mocassins. Ils étaient portés par des paysans au tout début du XXe siècle, puis c'est devenu une chaussure de loisir portée à la plage. Et les étudiants s'en sont ensuite emparés. Dans les années 60, ce qu'on appelait aux États-Unis les preppies, c'est-à-dire les étudiants des classes préparatoires américaines. En Angleterre, on les appelait les Teddy Boys et c'était les minets du drugstore Saint-Germain à Paris. Alors tous ceux qui voulaient être mieux sapés que leurs grands frères ont adopté les mocassins avant que cette mode n'envahisse les beaux quartiers et qu'on découvre au pied des hommes politiques. Par exemple, François Mitterrand possédait 30 paires de mocassins Weston, modèle 180. Écoutez Olivier Saillard, le directeur artistique de Weston.
Il s'appelle le mocassin 180 parce qu'il nécessite 180 prises en main pour être réalisé. Notre mocassin date de 1945. Je crois qu'on est assez vertueux dans la réalisation de ce modèle, dont on s'aperçoit qu'il est unisexe. En plus, on peut en effet les garder aussi longtemps que l'on veut, puisqu'on peut les faire réparer. Et on aime l'idée maintenant de faire durer un peu des objets à soi avec lesquels on a noué une intimité forte. Une chaussure qu'on a refaite de l'intérieur, mais dont on garde la patine du temps qui a passé et que l'on raffine, c'est comme un vieux cognac un peu. Et donc il est encore plus beau.
Voilà, et il est vrai que ce que la fantaisie effraie et que le prix de certaines marques rebute se rabattent aujourd'hui sur des modèles vintage vendus à moitié prix, tandis que les plus fortunés privilégient le sur-mesure. Et en France, je crois que c'est Alain Delon qui a porté le mieux les mocassins. Alors Pascal, Michael Jackson, Jacques Chirac, Alain Delon, quand est-ce que vous vous mettez au mocassin ?
Mais le mocassin et le costume, il y a problème.
Mais
et
non,
on en parlera
regardez
avec
tous
les
ces
auditeurs.
Mecs merveilleux.
C'est terminé, je vous coupe tout de suite parce que c'est la pause. À tout de suite, mais restez.
RTL Midi.